Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, chers lecteurs, chères lectrices, merci d'être à l'écoute de votre émission littéraire Un livre sur le zinc, en partenariat avec la librairie, la livrerie et la médiathèque départementale de Lozère. Nous sommes d'ailleurs en direct de la librairie aujourd'hui, ce soir, et aujourd'hui point d'Halloween, mais nous allons parler de sorcières dans cette émission. Pourquoi ? Eh bien je n'en sais rien, je ne m'en souviens plus, je vous invite à réécouter l'émission littérature et nourriture où nous avions décidé de ce thème, moi qui étais resté sur le thème crotte de nez proposé par Elodie. Il est d'ailleurs autant impossible de déterminer avec certitude quand ce thème a jailli de l'une d'entre vous et a pris le dessus sur le croc de nez d'Elodie que de déterminer comment est née l'image de la sorcière. Alors si bien sûr on a tous en tête la méchante sorcière, la méchante reine de Blanche-Neige ou la sorcière d'Ansel et Gretel des frères Grimm, il existe des sorcières dans presque toutes les civilisations anciennes. Alors on peut parler de Circé, personnage haut en couleur de la série Game of Thrones qui à la base quand même transformait les hommes en animaux dans l'Odyssée. En Mésopotamie, la déesse Tiamat, vers 2000 avant Jésus-Christ, était associée à la magie et aux pratiques occultes. Les tablettes babyloniennes mentionnent également des rituels magiques et des incantations pratiquées par les femmes. Dans l'Égypte ancienne, ouais, je vais faire toute l'histoire. Hein, ne vous inquiétez
et nous,
pas.
On n'a plus rien à faire.
C'est
fait.
Ça.
Bon, allez, à bientôt.
Vers 1500 avant Jésus-Christ, on trouve des mentions de praticiennes de magie comme les prêtresses d'Isis. Enfin, on va s'arrêter pour les temps anciens à la Bible, quand même. La Bible qui mentionne la sorcière d'Endor, environ 1000 avant Jésus-Christ, que le roi Saul consulte pour communiquer avec l'esprit de Samuel. Alors, il est important de noter que ces premières sorcières étaient souvent des guérisseuses, des prêtresses, des femmes savantes qui maîtrisaient la médecine par les plantes et les rituels spirituels. Et ça n'a pas toujours été ça par la suite. Le thème sorcière, avec sa connotation négative, est une construction sociale beaucoup plus tardive, principalement développée durant le Moyen-Âge européen. Et je remercie ici Elodie qui a laissé tomber ses crottes de nez, qui nous présentera La puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, un des seuls livres de cette émission qui analyse comment cette figure incarne la résistance au patriarcat, qui parlera de cette chasse aux femmes nommée chasse aux sorcières, vu que je n'ai pas lu Le sexocide des sorcières de Françoise Daubonne que je devais présenter. Un sort ayant certainement été jeté sur ma pauvre personne, satanée sorcellerie. Enfin, pour terminer cette introduction, je salue donc Hermione Granger qui a réhabilité l'image des sorcières chez nos enfants. Un peu autoritaire, même si elle excelle dans ce qu'elle fait. Comme toi Valérie d'ailleurs, salut Valérie.
Salut les Moldus.
Allez, salut Marlène.
Salut.
Thomas est de nouveau avec nous, salut.
Salut.
Et bonsoir Elodie.
Et salut.
Elodie, que je remercie, à qui je vais donner la parole. Elodie, il est intéressant.
Ah, mais ça tarde pas.
Et ouais, il est intéressant de noter que ce thème sorcière a été réhabilité ces dernières décennies, passant d'une connotation négative à un symbole d'émancipation et de sagesse féminine, et la littérature féministe s'est réappropriée la figure de la sorcière, et tu vas nous parler donc de Mona Chollet dans Sorcière, la puissance invaincue des femmes, qui est sortie en 2018.
Exactement, c'est pas tout récent, mais on pouvait pas passer à côté. Moi, je vous avoue que j'avais choisi plein d'autres livres et je me suis dit non, mais on est obligé de présenter ce bouquin. Et je vais avoir du mal à être concise, donc je vais essayer quand même. Donc effectivement, Mona Chollet, on peut peut-être la présenter, Mona Chollet, peut-être
bien
avant.
Sûr.
Mona Chollet, donc qui est journaliste, qui a été pigiste pour Charlie Hebdo, journaliste au Monde diplomatique, qui est franco-suisse, diplômée de l'ESJ de Lille, et puis à qui on doit déjà d'autres livres, on va dire féministes, en tout cas, qui étudient beaucoup la critique sociale et relations hommes-femmes, comme Beauté fatale, Chez soi ou Réinventer l'amour. Sorcière, c'est vraiment son best-seller, traduit en 15 langues, 250 000 exemplaires vendus. Il a reçu le prix Psychologie FNAC 2019. Et donc, il parle de quoi ? Il est très fourni, il est séquencé en quatre gros chapitres. Les femmes indépendantes et célibataires, la question des femmes sans enfants, le désir de stérilité, l'image de la femme âgée, vieillissante, le rapport au corps, à la science et à la nature. Et puis, elle finit par nous conseiller à toutes, peut-être à toutes et à tous, de mettre ce monde cul par-dessus tête. Voilà. Donc c'est un livre, on lui a reproché beaucoup à Mona Chollet d'être un peu, parfois un peu trop militante, de manquer un peu de nuance dans ce qu'elle raconte. Moi, je trouve que c'est un bouquin incroyable. L'écriture, elle est fluide, elle est accessible, elle fournit beaucoup de références historiques, culturelles, sociologiques. Elle fait un super parallélisme entre le féminisme et l'écologie. Pour elle, en fait, les sorcières d'aujourd'hui, elles vont avoir... Alors, il faut savoir que les sorcières, il y a une approche qui va être très politique en Europe sur les sorcières, mais qui va être beaucoup plus énergétique outre-Atlantique. Et elle fait un rapport sur le fait que bah, pour les sorcières d'aujourd'hui, tout est relié, l'humain au végétal, mais aussi à l'animal et au minéral. Et être une sorcière, à notre époque, c'est faire le lien entre tous ces éléments, être un pont et savoir un peu rencontrer le chemin de l'autre. Je trouvais que c'était assez intéressant. Elle revient évidemment beaucoup sur les chasses aux sorcières, hein, qu'elle ramène beaucoup aussi plus à la période... Enfin, souvent, on est entre le Moyen-Âge, mais en fait, elle remonte ça plus voilà, à la Renaissance. Et puis, elle parle tout simplement de meurtres de masse, hein, de femmes. Et il y a un triste parallélisme entre ce qui s'est passé avec l'antisémitisme, puisqu'on est sur des élites qui vont choisir un groupe sur lequel pour lui-même se renforcer. Et puis, on parle du sabbat des femmes. Donc voilà, on parle du nécrochu qu'on reprochait aux juifs. On parle de gens brûlés. Donc en fait, ça fait un écho un petit peu hallucinant et inquiétant par rapport à l'antisémitisme. Donc voilà, il y a plein de références, c'est très riche. Voilà, on ne peut pas passer à côté de ça.
Ouais. Mona Chollet qui défend d'ailleurs le peuple palestinien actuellement, qui s'est fait attaquer suite et qui avait été partie de Charlie Hebdo parce qu'elle était en contestation d'un éditorial de Philippe Val à l'époque, qui était rédacteur en chef, où il écrivait que les Palestiniens ne se conduisaient pas comme des gens civilisés. Voilà, comme tu parles d'antisémitisme. Oui. Voilà. Elle a eu des avis tranchés sur beaucoup de choses. C'est une féministe qui a écrit un article, par exemple, sur les fémènes, où elle détruisait les fémènes, où elle expliquait que fémène partout, féminisme nulle part. C'était le thème. Elle reprochait de manifester les seins nus dans un fameux sextrémisme promu par le groupe. Voilà qu'elle disait. Voilà. Ça s'est vendu, comme tu dis, ça a été un succès, 115 000 exemplaires 8 mois après sa parution, et à la rentrée 2021, ça a dépassé les 250 000 ventes. Voilà, et elle s'est basée aussi sur les ouvrages des américaines Starwalk et Sylvia Federici, qui établit un lien d'une part entre les sorcières de la Renaissance et de l'époque moderne, et les femmes qui aujourd'hui refusent la maternité d'autre part.
Voilà, et donc, mais ça tu le disais un petit peu, hein, mais voilà, quand, cette chasse aux sorcières, c'était souvent des femmes qui étaient, enfin, qu'on accusait d'être sorcières, mais malgré elles, c'est pas elles qui se revendiquaient sorcières, hein. C'était souvent, voilà, bon, refus de maternité, mais toujours des femmes indépendantes, des femmes, tu le disais, souvent lettrées, des fois des guérisseuses, des fois des femmes aux mœurs légères, mais en tout cas, dans tous les cas, c'était toujours des femmes qui vivaient pour elles-mêmes et qui se définissaient pas par rapport aux hommes ou aux enfants qu'elles auraient ou dû avoir ou pas, et voilà, donc c'était toujours des femmes qui se fichaient un peu du regard des autres, et quand on voit aujourd'hui cette liberté qu'on s'octroie, qui est encore un peu mince, hein, la façon d'être une femme comme il faut est encore assez étroite, on est encore sur une ligne de crête encore aujourd'hui, donc ça fait vraiment écho à ce qui s'est passé il y a des siècles encore aujourd'hui.
Mais merci beaucoup Élodie, c'est vrai qu'on aurait pu présenter beaucoup de livres sur ce thème-là, donc c'est déjà bien qu'on en ait présenté un durant cette émission, parce que c'est vrai que ça a souvent été une excuse aussi pour... brûler des gens, on ne va pas refaire l'histoire du Moyen-Âge, du clergé, de tout ce qui va avec.
Quand on était en bord de mer, on les jetait des falaises, voir si elles rebondissaient ou pas. Si elles rebondissaient, c'était une sorcière. Si elles ne rebondissaient pas, ben...
Tant pis.
Est-ce qu'il y en a des...
une... lavure.
Est-ce qu'il y en a une qui a rebondi pareil, déjà?
Pardon?
Est-ce qu'il y en a une qui a rebondi au moins?
Hop, je ne sais pas.
Je ne sais pas, je ne pense pas.
Est-ce qu'elle explique combien il y a de... Moi, j'avais entendu un jour parler de chiffres en milliers de morts. Enfin, c'est compliqué à savoir au passé.
Qu'ils y sont. Alors, je n'ai pas la page. Hein,
je crois que c'est quelque chose de...
Faire fouiller dans les pages.
De fou, quoi. Ce n'est pas juste une centaine de femmes sur... Non, c'est des milliers de milliers.
Ah non, oui. On ne s'arrête pas du tout au procès de Salem. Hein. Vraiment, ça va très, très loin.
Oui, oui. Merci, Élodie. Valérie, allez, je te laisse la parole.
Eh bien...
Tu veux que je passe à quelqu'un d'autre?
Non, j'étais tout à fait prête, puisque de toute façon, je ne t'avais encore pas une fois, encore une nouvelle fois, pas envoyé d'infos.
Les livres que tu
Donc, moi, j'avais très, très... Bah, c'était difficile, parce qu'en fait, dans tous les livres, on parle de sorcières. J'ai failli vous parler pour la quatrième fois, je me suis rendu compte des graciers. Mais oui, mais parce qu'on est vraiment dans le sujet sorcière, et puis je me suis dit, tiens, je vais leur parler du livre Peau de sang d'Audrey Wilhelmy, je ne sais pas comment ça se prononce, et j'étais en train de chercher sa bio parce que je ne la connaissais pas vraiment. Donc c'est une autrice québécoise, donc qui est toute jeune puisqu'elle est née en 1985, ce qui fait qu'avoir 40 ans cette année. Je gagne du temps pour lire sa biographie là. Donc voilà. Donc elle a écrit plusieurs romans. Celui-ci, je crois que c'est son 3 ou 4e. Voilà, elle écrit beaucoup. Elle a beaucoup de prix féminins. Elle écrit beaucoup sur les femmes. Et ce livre-là, cette espèce de coup de cœur que j'ai eu, qui est édité au Tripode, Peau de sang, raconte l'histoire, alors qui est pas forcément marqué dans tout le texte, dans tout le roman, le mot sorcière n'apparaîtra pas, sauf dans la préface, je sais pas comment on appelle le petit mot qu'on met le jour où j'écris un livre, je mettrai mon ami Ludovic Thérol.
Merci.
Voilà, et c'est le seul. Oui, mais alors ça on sera bien encore. Après, j'espère. Voilà, donc là, il y a juste marqué Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres. C'est le seul...
Anne Sylvestre, la chanteuse ?
Celle-ci.
Ah, j'adore.
Voilà, donc c'était assez rigolo parce que j'avais envie de vous parler de ce livre, mais je me suis dit, mince, ça ne s'est pas écrit clairement qu'on parle de sorcière, mais le personnage dont je vais vous parler, Anna Touler. Ce personnage donc, s'appelle Peau de sang. Peau de sang, elle est plumeuse d'oie. Elle a une échoppe, donc on est dans un lieu qu'on pense être un Québec profond, dans un lieu, un passé lointain, mais pas tant que ça, parce que les rapports humains sont assez modernes. Et elle, son travail, la journée, elle plume les oies, et pour accomplir donc son horrible travail de meurtrière, elle a plusieurs tabliers qu'elle met le matin, qu'elle enlève le soir, un peu comme un rituel, une ritournelle, comme un peu comme on préparerait une potion magique. Et la journée, elle fait ça, et le soir, quand elle enlève son tablier, son premier tablier qui l'empêche de se tacher, qui protège le deuxième, qui l'empêche d'avoir froid, qui protège le troisième, qui celui-ci plaît aux hommes. Puisque le soir, notre peau de sang, elle devient putain. Elle devient putain, elle vend ses charmes aux hommes qui viennent la voir. Et les jours passent et elle n'est toujours pas mariée, elle n'est toujours pas... elle a pas suivi le rythme que doivent avoir toutes les autres femmes. Et elle est peau de sang, elle est crainte aussi. Elle est crainte parce qu'elle a un pouvoir d'attraction donc sur les hommes qui le soir venu essayent de regarder à travers la vitre du magasin parce qu'elle envoûte beaucoup. Mais on sait qu'elle envoûte parce qu'elle a une tenue, un jupon en plume d'oie ou on ne sait en quoi, qui est considéré comme magique, mais on ne sait pas trop. Il y a un gros mystère autour de choses qu'elle cache dans une boîte. Et elle a aussi ce don d'apprendre aux jeunes filles, qu'elle appelle les oies blanches, quand elle les aide à préparer son trousseau, de leur transmettre les choses de la vie. Et donc voilà, il y a un côté très, très beau dans ce livre, parce que c'est comme un roman choral où chaque personnage va prendre la parole, et c'est dans plein de moments, c'est écrit comme une poésie. Et toujours autour de cette peau de sang qui est...
Oui. Ça se passe à quelle époque ?
On ne sait pas trop. On suppose qu'il n'y a pas de voiture, donc c'est ancien, mais en même temps, c'est
comme tu le racontes, très, voilà, très sans moderne. Le dire, c'est ce que c'est je m'imaginais à cette époque-là aussi.
Ouais, c'est ça, parce qu'il y a ce côté, le trousseau, le mariage forcé, qui très vite, on peut y revenir. Hein, mais,
c'est en France, c'est à Paris ? Non, c'est... On sait pas.
Vu ce côté très neigeux, très froid, on suppose, comme l'autrice est québécoise, que c'est à Margeride.
Voilà, c'est ce que je pense.
Ou la Margeride, ou le Québec.
Ça fait penser à des contes, tu sais ?
Oui.
Il y a un conte
sur le celle qui ne regarde jamais par le trou de la serrure et tous les soirs elle enlève ses plumes et elle tisse sauf qu'un jour le mari regarde.
C'est une revisite ou pas?
Non, pas vraiment, mais j'avouerai que c'est en préparant un conte et rencontre que je me suis rappelée de ce conte. Voilà. Non, mais voilà, ça m'a beaucoup plu parce que là, on est à la fois, comme disait Elodie, sur les sorcières, on est à la fois sur quelqu'un qui est primordial à la stabilité de la vie dans le village. En même temps, elle est très crainte, mais en même temps, elle est admirée pour son autonomie, pour sa féminité, pour sa force de caractère. Et je trouve que ça représente bien la dualité qu'il y a aujourd'hui quand on dit à une femme que c'est une sorcière. À la fois, c'est un être qu'on va admirer et à la fois, c'est un être qu'on va craindre. Et,
Ça donne envie de lire la suite.
Il est extraordinaire. Il est très, très, très beau à lire. C'est un peu déroutant parce que ce n'est pas un roman ou un conte qu'on va lire.
C'est assez gros quand même. C'est un pavé, ce n'est pas un petit conte.
Il est assez grand. Puis même les phrases ne sont pas... sont parfois pas terminées. Comment vous dire ? Si je prends une phrase, parce qu'elles sont très très longues aussi. Hop. Peut-être pas un truc trop gore, mais voilà. À chacune des filles qui cognent chez moi, je demande « Et si le loup ?» Je n'insiste pas sur la menace, seulement sur l'élan, l'impulsion du bon, un désir. Elles essaient d'imaginer des crocs, un grognement, la laine chaude dans le cou, une idée de la jonction de l'homme et du chien noir. Elles ne connaissent des loups que ceux qui portent la salopette dans les livres de contes. Et je leur demande, et si le loup... Elles sont encore toutes jeunes, avec des tresses larges comme la main et des mèches qui bouclent autour de leur visage. Elles se nourrissent de périls imaginaires. Et si le loup... Et ça continue comme ça, c'est très... Okay. Il y a vraiment ce côté ritournel du conte, mais à la fois ce côté aussi envoûtant comme une recette dans un grimoire.
Ok, c'est...
Au tripode.
Voilà. J'ai même plus besoin de poser de questions. Voilà. C'est formidable.
Mais je voyais que tu essayais de reconnaître le logo.
Parce que c'est une belle, pochette.
Le tripode. Pardon.
Allez, ça y est, ça commence.
C'est ça aussi.
Ouais. J'ai pas bu. Le tripode fait quand même des très très belles couvertures. Hein.
Ouais.
C'est un Trigelmeister et tripode. D'accord. Je trouve qu'ils sont, ils font des très très belles couvertures.
Et il y a des pouvoirs alors ou pas?
Mais tu veux le lire hein.
Non, pour savoir si après ça part un peu en science-fiction. Non, si par contre,
on n'est pas dans la science-fiction. On est plus dans le. C'est plus quelque chose de. Comment dire de, pas de spirituel, mais c'est pas du spiritisme non plus, mais on est sur quelque chose de métaphysique, dirais-je.
D'accord, très bien.
Voilà.
Mais merci beaucoup, Valérie.
Avec plaisir.
Allez, Marlène, un roman dont le film a été vu par toute une génération, avec bien sûr Jack Nicholson, Michel Pfeiffer, Suzanne Sarandon et Cher. Je parle des sorcières d'Ipswich du romancier John Updike, qui s'appelle John Hoyer Updike, écrivain et nouvelliste américain, né en 1932 et mort en 2009, et qui est principalement connu pour sa tétralogie sur Rabbit et pour avoir reçu deux fois le prix Pulitzer. Alors il l'a reçu deux fois et pour ses deux derniers livres de cette tétralogie, Rabbit, donc il a reçu pour Rabbit est riche et Rabbit en paix. Voilà, qui parle d'un ouvrier, hein, c'est pas un lapin, mais c'était un ouvrier qu'on avait surnommé comme ça quand je jouais au basket à l'époque à l'université. Mais ça n'a aucun rapport parce qu'on parle des sorcières.
Aucun rapport.
Non, on parle des sorcières où d'ailleurs il a écrit une suite, ça a été son dernier roman avant de mourir. J'en parlerai tout à l'heure.
Ouais, ben déjà t'as dit pas mal de choses. Alors du coup, le livre que t'as présenté hier, chère Élodie, du coup c'est bien parce que comme ça fait la synthèse d'un peu toutes les thématiques qui ont été abordées. Et pour le coup, là, on est donc contexte. Histoire écrite dans l'Amérique des années 70, qui a encore pas mal de tabous, où la condition de la femme, elle n'est pas totalement libérée encore, et où effectivement, on est toujours dans soit la bobonne de ton homme à la maison, pardon, voilà, on est dans ce contexte-là. Mais par contre, à l'inverse de toi, Valérie, c'est tout de suite dit, les trois héroïnes sont trois sorcières. Ah, on rentre tout de suite dans l'histoire. Donc, c'est, je ne sais plus... la ville, Eastwick, elle a un peu comme contexte de décupler, on va dire, un petit peu le pouvoir des sorcières. Voilà. Donc, ça fait une espèce de mesclum comme ça, où voilà, il y a beaucoup de pouvoir. Alors, donc, on a trois héroïnes. Qui s'adonnent à la sorcellerie et qui jouent de leur charme auprès des hommes. Donc ces trois femmes-là se sont libérées, ont divorcé et ont un nombre incalculable d'amants. Et ça y va. et on a des descriptions, et on y va. Voilà. Dans le roman, la thématique de la bisexualité est aussi un petit peu lancée sur voilà, mais ça ne se fait pas, voyons, mais voilà, pourquoi pas. Ouais. Donc voilà, on touche aux thématiques qui effectivement ont toujours été tabous et qui amènent à dire que ah, ce sont des sorcières forcément. Donc voilà. Et dès le départ, on sait que donc, ces trois protagonistes-là, Jane, Alexandra et Suki, elles ont commencé leur petit rituel de sorcellerie sur leurs ex. Voilà. Et donc, il y en a un, il sèche par la peau dans une cave et il sert de condiments sur certains plats.
Il paraît que ça sent moins quand on les fait sécher.
Il y en a un autre, il a rapetissé, tellement il devenait insignifiant jusqu'à être enfermé dans du formol dans un bocal. Je vous la fais. Voilà, on est vraiment dans des descriptions comme ça. Et en fait, ces trois femmes-là profitent très largement de la vie, des amants, etc. Et un jour, vont se retrouver confrontés à un nouveau personnage qui arrive et qui va représenter un petit peu, en fait, dans cette histoire, le diable. D'autant plus que c'est un homme noir. Alors, noir tant par sa couleur de peau, donc bienvenue, Amérique puritaine, nanani, nanana, on est encore blanc, noir, hein. En plus, il est velu, il a, on va dire, des caractéristiques physiques un petit peu particulières, voilà, surtout quand il est dans l'eau, enfin, il y a des trucs un peu spéciaux, quoi, voilà. On est vraiment dans des descriptions particulières. Donc, bien sûr, ça va devenir l'amant de ces trois dames-là, voilà. Il sort de tous les autres hommes, il est baratineur, vulgaire et assez pervers, voilà, c'est très... Voilà. Ça tourne autour de ça.
Il a tout pour plaire.
Il a tout pour plaire. Jusqu'à ce que une petite jeunette qui est... alors, je ne sais plus trop. Elle a une... Je crois que c'est la fille d'un des amants d'une des protagonistes, là. Arrive et donc, dans toute sa fraîcheur, dans toute sa jeunesse, ce cher diable-là sera plutôt attiré par elle. Et donc, ces trois chères dames vont se liguer pour faire des misères à cette jeune fille.
Ouais,
et avec tout un rituel cérémoniel... voilà, jusqu'au bout, et pour se débarrasser de la concurrente. Voilà.
On dira donc, pas ce qu'elles lui font, mais c'est pas joli, joli. Hein.
Voilà, et bon, il faut le dire, bon, voilà, c'est très... Mais voilà, on est vraiment dans, pour le coup, là, c'est l'image de la sorcière. Alors, c'est, si on prend premier degré, c'est, on est, voilà, magie, sorcellerie, j'utilise des poupées, je fais plein de choses... Bon, bref, il y a du sang, il y a un peu tout ce que vous voulez. Et en même temps, c'est vraiment cette critique aussi de l'Amérique puritaine, des bons penseurs, etc. Ouais. Et effectivement, de l'image de la femme. Donc là, pour le coup, bah, elles sont libres, elles jouent de leur beauté, de leur corps. Oui, elles plaisent aux hommes, elles en profitent. Voilà, donc forcément, ça passe pas. Voilà,
voilà, parce que le film n'a pas trop de rapport avec le livre. Hein. Ils sont nés...
Alors, je n'ai pas vu le film.
C'est largement... Ben, regarde-le, non. Enfin, moi, voilà. Je me rappelle de l'époque, mais...
C'est là où il y a une sorcière toute verte, non? C'est pas ça?
Qui devient verte à un moment donné, c'est possible.
Non,
ça, c'est Shrek, ça.
Non, non, mais c'est dans le livre que je vais présenter après. Oui, mais j'ai une image d'un film assez ancien.
Dans l'eau, elle devient plutôt sombre, pour le coup. Elles ont des espèces de tentacules.
Non, je comprends avec un autre... Non, je comprends, le magicien d'Oz.
Ben oui, c'est ce que je
dis. C'est le préquel, toi.
Ah oui. Hein,
c'est ce que je vais te présenter après.
Oui, c'est ça.
Non, là, là, pour le coup, c'est vraiment plus... mais c'est vraiment basé... Il y a beaucoup de descriptions sur la sexualité, etc.
Ouais, mais...
Justement, l'interrogation sur homosexuel, bisexuel, etc., ouais. Ça commence aussi, alors que c'est dans des années où... non, c'est pas encore assez pouvoir parler de ça.
John, après, il a écrit en 80 et quelqu'un, ce livre, en 88, je crois.
Oui, mais il replace le contexte, l'histoire est replacée
avant. Il est replacé avant, voilà. Oui, bien sûr.
Donc, il interroge ça, quoi.
Sur toute sa bibliographie, Updike, il dépeint toujours l'Amérique des petites villes protestantes bourgeoises et accorde une importante récurrence au sexe, à la foi, à la mort, à leur entrelacement. Donc on y est.
Ah, mais totalement.
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 Voilà. Et il a voulu sortir de Rabbit en se disant je vais prendre des sorcières. Et il a écrit.
Là, il les prend bien, là, parce que.
Ouais. Donc merci de cette image, Marlène, pour terminer ta chronique. Tu as presque choqué. Tu auras droit à ma prochaine introduction. Tu as droit à la prochaine introduction. Et donc, il a écrit une suite, Les Veuves d'Eastwick, qu'il a écrit en 2008, soit un an avant de mourir. Je crois qu'il est mort du cancer du poumon. Il est mort du cancer du poumon.
Certainement un sortilège.
Ouais. Ah bah oui. Mais d'ailleurs, c'est un cancer qu'attrape la jeune fille, enfin que les trois sorcières jettent en sort sur la jeune fille. Lui,
fou. Lui offre. Mais c'est peut-être qu'il savait qu'il l'avait et du coup il s'est dit.
Mais non, ça il a écrit en 88. Il avait en 88 qu'il est mort en 2008. Bah, peut-être. 20 ans de cancer de poumon, du poumon. Ouais. Je pense pas. Ouais. On demandera à Elodie, elle est pro.
Laisse-moi en
médecine. Médecine, elle est pro. Allez, avant la pause musicale, Thomas, on va
moi, c'est
un peu plus de légèreté.
Exactement. Hein.
Chabouté.
C'est Chabouté. Christophe, de son prénom, qui a écrit sorcière. Comme ça, on est sûr d'être dans le thème. Il s'est dit, tiens, je vais pas me tromper.
Et zut, ça n'a rien à voir.
Non, si, ça a bien à voir. Et d'ailleurs, en fait, c'est un recueil de... En tout cas, c'est quatre de ses premiers textes. Zoé, Sorcière, Pleine Lune et La Bête. Effectivement, moi, je me suis intéressé à Sorcière. Et en fait, c'est très court. Donc, c'est une quinzaine de petites scénettes. C'est des histoires qui font entre 2, 3 et 4 pages. Et c'est assez... Oui, c'est... Du coup, c'est une BD, déjà. Tout en noir et blanc, c'est son style de dessin. Et c'est très trash, beaucoup d'humour, assez subversif, de l'humour noir... ça se dépeint toujours, et d'ailleurs en fait ce que j'ai lu aussi, Zoé, qui était sa deuxième publication, qui est là pour le coup une histoire un peu plus longue, mais à chaque fois que ça soit Sorcière ou Zoé, c'est toujours dans des, ça se passe dans des petits villages mais au fin fond de la ruralité, avec des gens qui expressivement moches, souvent des vieilles personnes, des agriculteurs, enfin c'est assez bizarre. Donc toutes ces sorcières sont souvent, d'ailleurs c'est pas des sorcières jeunes qui pourraient être attirantes, là pour le coup c'est vraiment l'image de la sorcière qui a 90 ans, qui est au, là, à la verrue, tout ça, ouais, c'est vraiment l'image de la sorcière de Blanche-Neige par exemple, un peu ce type-là, mais j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que ça se lit assez rapidement, c'est drôle, et j'aime bien le côté aussi où il s'est un peu dit, bon voilà, il y a ce côté un peu magique des sorcières, mais ça se passe dans une France des années 90 où des fois on voit les voitures un peu type les Renault 25, les 4L, on voit un peu cette France-là de cette époque-là. Et en fait, il se dit un peu, voilà, les sorcières, en fait, c'est des humains comme tout le monde, donc des fois elles se ratent, des fois elles sont drôles, des fois les gens qui viennent la voir, c'est pour des trucs bêtes, des trucs rigolos, enfin... Il y a un peu ce côté-là, un peu comme dans Kaamelott, où je trouve, ok, il y a un côté sacré d'une histoire très légendaire, mais en fait, c'est des humains comme tout le monde, donc des fois, ils ont la flemme, des fois, ils sont bons, des fois, ils sont pas bons. Et c'est assez marrant. Par exemple, moi, j'ai bien aimé, je vais raconter une histoire qui m'a fait rire. C'est un mec qui, un vieil agriculteur qui veut, c'est un peu l'amour est dans le pré, il veut aller séduire une agricultrice, et à chaque fois, il se prend des râteaux, donc il va voir la sorcière pour lui demander un sort pour qu'elle puisse tomber amoureux, et elle lui dit, elle fait sa potion et elle lui dit quand même à la fin, il faudrait du lait des seins de cette femme. Donc là il se dit, ça va être assez compliqué de moi les récupérer, déjà qu'elle met déjà qu'elle met des vents, et du coup il va choper un jeune, je crois que je me demande si c'est pas justement, je crois que le fils de cette fille là en lui disant, parce que lui il est en train de regarder une BD, un livre, un magazine porno. Donc il le chope et il lui dit, je dirai rien à ta mère, par contre, toi va récupérer du lait des seins de ta mère, me demande pas pourquoi, j'en ai besoin. Et au final, au bout de quelques heures, il revient très vite avec du lait, beaucoup de lait, et il se dit, bah, dis donc, t'as fait ça vite et tout, bravo. Finalement, il le boit, et en fait, dans la nuit, on entend toc, 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 et qu'est-ce qui arrive ?
La vache.
La vache.
T'avais... Excellent. Non, je l'ai pas lu, mais oui.
Et en fait, c'est beaucoup de trucs comme ça, des trucs bêtes. Il y a un moment aussi, une sorcière, toujours c'est une histoire de vache et un agriculteur qui veut faire tuer des vaches à un autre agriculteur. La sorcière n'y arrive pas, son sort marche pas. Donc au bout de la quatrième fois, le monsieur vient la revoir, il disait, ton sort il marche pas. Elle prend son fusil, elle les tue. C'est des trucs un peu bêtes comme ça, mais...
Chabouti, il est connu, hein. Il a fait les Beaux-Arts d'Angoulême.
Oui, mais c'est ça, le dernier, c'était Musée, là, qu'il a fait. C'est assez sérieux et décalé, mais pas autant... Ben, ça, c'est génial.
Zoé, déjà,
c'est son premier ouvrage, Sorcière.
Ah,
Zoé, c'est son deuxième, que j'ai lu aussi.
Okay.
Il y a aussi il y a une toute petite histoire de sorcière. Si, quand même, on sent un peu ce côté-là derrière. Il faut que c'est dans un village, à la Saint-Jean, il brûle une fausse sorcière, mais... Là, il y a une histoire un peu plus, du coup, plus longue, donc c'est mieux raconté. Mais juste pour terminer, ce qui est intéressant dans Sorcière, j'ai lu aussi dans sa bio qu'il a bossé pendant 10 ou 15 ans dans une agence de publicité. Et je trouve que ça se voit un peu ce côté-là où en quelques pages, il fait comme on ferait dans un spot publicitaire de 30 secondes, il arrive à raconter un début d'histoire, un reversement, claque, la fin, ça marche bien. Un peu comme une pub.
Quinzaine d'années dans la publicité, c'est ça. Après, Vendouest a publié ses premières planches en 93. Il a sorti son premier ouvrage en 98, Sorcière. Et là, donc, tu disais, Valérie vient d'en sortir un. Il a, en 2017 aussi, s'est associé à Charles-Élie Couture pour faire une exposition portant sur New York à Bruxelles. Alors qu'il n'était jamais allé à New York, il a fait des dessins par rapport aux films qu'il connaissait de la ville. Voilà, Chabouté qui est vraiment connu. Merci beaucoup Thomas. Allez, on va faire une pause musicale avec un morceau qui s'intitule Red Wine, parce qu'il paraît que c'est le sang des sorcières, on m'a dit avant cette émission. Donc voilà.
T'as dit ça parce qu'on avait soif.
Ouais, peut-être bien. Écoute, on va écouter et on va voir ça. Allez, à tout de suite.
Gotta find myself a couple of drinks. Red, red wine, you make me feel so fine. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind. I went down the street to find myself a couple of drinks, hanging around with my homies, having fun together, a real pleasure. Thinking about what I have to do to get happiness back in my life again. Sometimes some brewish can do this, bro. Red, red wine can make you feel so fine. Chase the blood, everything comes from God. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind. Part of time, left for in the morning with the red, red wine. I didn't feel that fine, not even better, but whatever. We rolled out of troubles, a slight rumble in the jungle. But the thing is when I'm feeling sad, I will always get some red, red wine, yeah, and that's a fact. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind.
Allez, on est reparti. Hop, on va mettre sur pause la musique. Et on va retrouver Elodie pour Le Temps des sorcières d'Alix Arao.
Oui, un livre également très féministe, hein, je suis désolée pour cette sélection. Alors là, c'est même pas un pavé, je crois que c'est un parpaing. 624 pages, primé dans les livres fantasy en Grande-Bretagne en 2021, donc un peu plus récent que celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Écrit en tout petit caractère, qui met en scène un groupe de suffragettes et de sorcières qui vont lutter pour les droits des femmes et donc plus particulièrement pour leur droit de vote. Alors l'histoire, je vous raconte un peu de quoi ça parle. Ça se déroule en 1893 aux États-Unis. C'est l'histoire donc de trois sœurs, les trois sœurs Eastwood, qui étaient inséparables pendant toute leur enfance, jusqu'à ce que leur père violent réussisse à les éloigner les unes des autres. 7 ans plus tard, les revoilà par hasard dans la même ville de New Salem, à l'endroit même où on a brûlé les sorcières de Salem 2 siècles plus tôt. Alors on a Bella qui est bibliothécaire, Agnès qui est enceinte, qui est ouvrière dans une usine, et Genièvre, la Benjamine, qui vient d'échapper à son père et qui est d'ailleurs recherchée pour son meurtre. Alors toutes trois, elles vont se retrouver un peu malgré elles à devoir choisir leur voie, à faire renaître le pouvoir des sorcières d'antan légué par leur grand-mère. Et elles vont aussi avoir l'opportunité de se redonner un peu une liberté qu'en tant que femmes, elles n'ont pas, ni elles d'ailleurs, ni leurs congénères. Alors c'est plus un roman, alors c'est un roman fantastique, hein, mais c'est plus un roman d'émancipation, très bien traduit au passage, avec des femmes qui veulent juste arrêter de vivre dans la peur. Pendant tout le roman, on a ce climat de terreur du « si je parle, voilà, on va me dénoncer, si j'en fais trop, on va me dénoncer ». Ces trois femmes, en plus, elles ont un peu la loose, enfin, elles vivent pauvrement, mais surtout, rien, enfin, tout ce qu'elles tentent, que ce soit magique ou pas, enfin, ça rate, quoi, ça foire à chaque fois. C'est une ambiance qui est assez singulière, assez mélancolique. Les personnages, ils sont très complexes. Je vous ai parlé de ces trois sœurs et elles, toutes les trois, elles représentent chaque figure emblématique de la femme. Donc, on en a une qui fait la fécondité, la maternité, hein, elle est enceinte. La jeune fille, la Benjamine, ça va être l'impulsivité, la colère, la fougue. Et puis l'aïeule, c'est la bibliothécaire qui va représenter la sagesse, l'expérience, comme par hasard. Voilà. Et donc là aussi, hein, on a encore la sorcellerie qui est source d'émancipation, l'idée que toute femme, elle est un peu sorcière. Moi, ce que j'ai bien aimé, alors il y a vraiment un personnage qui est très fort, hein, celui de la Benjamine, qui a un passé traumatique, qui est vachement rebelle, qui est très radical. Et c'est elle qui va être la force motrice du changement un peu dans ce bouquin. Elle va pousser ses sœurs et puis toutes les autres femmes, les suffragettes, à utiliser de façon plus audacieuse et plus politique leur magie. Et moi, ce que j'ai bien aimé là dans ce livre, c'est cette... alors, je ne vais pas dire que c'est la morale de l'histoire, mais un petit peu quand même. L'idée que les paroles magiques... Alors, l'auteur, c'est assez sympa, avant chaque chapitre, il y a des voix, des petits vers, des sortes de paroles magiques.
S'il te plaît, merci.
Paroles non, magiques. Pas du tout. Non, il y a des chouettes. Non,
c'est ce qu'on dit,
des
petits mots magiques.
Voilà. Il y a des vers et des voix. Mais ces vers et ces voix, là, dans ce bouquin, comme elles sont opprimées, hein, elles sont obligées de se battre. Et donc, ça va être chuchoté dans l'oreille. Elles vont se passer ces petites paroles magiques dans les poches des tabliers, dans des coins de livres. Elles vont se les passer comme ça. Et donc, c'est toute l'idée que... c'est un joli message qui dit que le savoir, en fait, s'il est transmis, en fait, il ne peut pas être perdu. Il faut essayer d'en garder une trace, et ce qui compte, c'est toujours de passer le flambeau à la génération suivante, et ça, c'est un petit message qui est assez sympa dans ce livre. Voilà, il y a certaines longueurs, hein, je vous le cache pas, mais il est pas mal. En même temps, sur 600 pages, c'est dur d'aller à l'essentiel.
Ok, elle a reçu un prix, le prix British Fantasy du meilleur roman.
Voilà,
fantasy.
En 2021, exactement. Mais comme je suis pas bilingue, j'ai préféré éviter de le prononcer.
Non, mais c'est bien. Quel âge tu le conseilles? Ça a l'air.
Ah non, c'est un roman adulte. Il est assez sombre. Hein. C'est assez sombre.
Ouais, d'accord.
Ah, mais du coup, c'est peut-être le moment que je sorte. J'essaye hein, depuis tout à l'heure d'essayer de raccrocher ma purée de wildcard.
La wildcard, on s'en fout. On la dégaine quand on veut. On n'est pas obligé de faire des
transitions.
Je crois
que je vais la sortir maintenant, en fait.
Non, vas-y, coupe Marlène.
Non, je coupe pas la parole. C'est juste que la transition, comme tu parlais de toute petite morale qui n'en était pas, des petits messages et des... voilà, qui sont importants, du coup, pour la suite... aucun rapport avec la thématique. Hein.
Le jingle lui dit.
Ah ouais,
c'est la wildcard
de Marlène.
Donc on est chez Dan Brown, mais on n'est pas chez le Da Vinci Code ou Origine ou tout ce qu'il a pu faire. Voilà, on est en jeunesse.
Ah bon, il a fait du jeunesse.
Voilà, donc déjà c'était pour choc. Voilà, c'est pour dire que ça n'a aucun rapport.
Mais c'est le vrai Dan Brown.
C'est le vrai Dan Brown, c'est lui qui a fait. Et alors, le livre donc s'appelle La Symphonie des Animaux. Et donc, bon, outre le fait qu'il soit pour la jeunesse et qu'on soit totalement à l'opposé des polars, des thrillers, de tout ce qu'il a pu faire avant, on est sur des petits messages qui passent aux enfants.
Ouais. Moi, je pense qu'elle bluffe. C'est
je
pas
pense
vrai.
Qu'elle bluffe.
Mais à mon avis, des Dan Brown, il doit en avoir un paquet.
Je bluffe pas du tout. Vous irez regarder.
Lui, il est du Massachusetts.
Là, par exemple, petite morale, même quand la vie paraît sans dessus-dessous, tu peux trouver de la beauté partout. Il y a des petites morales à chaque page. C'est pour ça que je fais ce lien. Ah, j'ai réussi à en trouver un, je sais pas comment.
De rien.
Comment je vais faire. Et donc, outre le fait que ce soit un livre jeunesse, donc ça parle d'animaux. Ce sont des espèces de petites chansons, histoires chantonnées. Et il y a aussi l'application avec Dan Brown qui joue du piano, qui chante pour chaque page via l'application.
En réalité augmentée.
Voilà. Et donc, c'était aussi pour faire la petite transition et dire que nous avions parlé une fois de peut-être partir sur une thématique avec la musique dans les livres.
Ah, wesh. C'est vrai.
Donc, je me suis dit que, voilà, d'une pierre deux coups, j'ai de la mémoire et je voulais donc vous suggérer ceci.
Mais ça, c'est un
ceci.
Super thème.
Sachant que, vraiment, ce livre, c'est vrai qu'il est chouette pour les petits tous.
Les livres de musique. J'en ai commandé un.
Les partitions, quoi. Je vais vous présenter que des partitions.
Voilà.
Non, mais après, il y a plein de livres comme L'amour ouf ou des choses comme ça qui sont très dans le.
On en avait parlé.
On avait interviewé quelqu'un à Angoulême qui faisait des livres de musique.
Oui, tu t'en rappelles ?
Hendrix, oui, je m'en rappelle.
Oui, Hendrix, Tiefen. C'est des BD, en fait. Et tu pouvais scanner, c'était des livres sur le vin.
C'était le vin,
ouais. Mais c'était des livres.
On pouvait scanner et entendre les albums en même temps. Il y avait un truc comme ça.
Là, c'est le principe. Il y a une application
et tu entends. Chronique, là, juste avant, là, qui est partie. Sur les livres de romance, là, en ce moment...
Clarisse,
qui était fan de New Romance. Et ben, dans tous les livres de New Romance, maintenant, on a des playlists qui vont avec.
Ah bah
oui. Et alors, des playlists Spotify qui sont déjà préparées. Tu achètes le bouquin, hop, tu te mets de la playlist en même temps que tu lis le chapitre. C'est merveilleux.
Mais y a pas mal, on va en trouver.
On va en trouver.
Donc, bon, voilà. C'est ça, le prochain thème.
Ben pourquoi
pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'était juste
bonne idée.
On
l'a jamais fait.
On l'a jamais fait. Allez, c'est parti. Musique, voilà. Livres, les livres dans la musique.
Mais bon, vous regarderez, c'est bien le Dan Brown du Da Vinci.
Voilà. Ok.
Pas de souci, c'est bien lui. Mais c'est vraiment assez mignon et voilà.
Super. Je pourrais présenter le recueil de poésie de Kurt Cobain. Parfait.
Si tu veux.
C'est super. Pourquoi j'ai faire un recueil de poésie d'Harrison.
Voilà. Très belle wildcard. On vérifiera quand même que ton Dan Brown.
Ah mais tu peux vérifier. J'ai la biographe avec là. J'ai tout.
Ouais.
Il a fait avant ou après
Non, après.
Ah ouais.
Et ça, c'est dans les
son
derniers
petit
trucs.
Plaisir, quoi.
Ouais. En fait, il joue du piano depuis longtemps.
Et
sa maman était pianiste et son papa était musicien, donc il a baigné dans la musique aussi. Et en fait, il explique que du coup, il a toujours voulu faire quelque chose, voilà. Et que je pense que c'est aussi le fait que tu vieillis qui fait que du coup, tu passe à autre chose aussi.
Oui, et que tu peux te permettre avec ta notoriété de
voilà,
faire ce que
oui,
tu veux.
Et donc effectivement, il explique qu'il a toujours voulu faire ça, donc en
excellent.
Plus, voilà, mis en musique et tout, c'est super. Donc tous les animaux, ouais, c'est sympa parce que mais même Elodie peut en témoigner puisqu'elle a testé.
Je l'ai testé avec la réalité augmentée et c'est vraiment très chouette. Voilà, tous les animaux sont ensorcelés par la musique.
Ouais.
Pour revenir à notre
jusqu'à
thématique.
Jusqu'à la symphonie finale où ils jouent tous. Donc chacun a son caractère. Donc en plus c'est bien parce que du coup ça montre que voilà, on est tous différents, on a tous il y a tout le temps une petite alors c'est pas vraiment du coup une morale mais c'est un petit coup de pouce de dire mais si tu n'y arrives pas, continue, persévère. Voilà, il y a toujours c'est important de te donner à 100%, mais n'oublie pas de recharger tes batteries de temps en temps. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça.
Okay.
C'est lié au caractère des animaux et ils ont un instrument de musique qui va avec, quoi. Qui correspond vraiment à leur caractère et à leur la petite...
Il te faut un casque pour la réalité virtuelle, du coup ?
Non,
sur l'appli,
tu charges l'appli sur ton portable, sur ta tablette, et tu as la musique au fur et à mesure que tu tournes les pages.
Ah, mais c'est juste la musique,
la musique
alors.
Derrière.
D'accord.
Ouais. Mais qui est vraiment adaptée à l'image.
Virtuelle, alors. Ok, d'accord.
J'ai l'appli. Alors j'ai écouté tout à l'heure, mais je me suis dit si tu le passes comme ça, ça va pas.
Ça s'entendra pas. Ouais.
C'est ça. Donc, mais ouais.
Ok, très bien. Maison d'édition.
Ah, mais non, mais c'est surtout que je l'ai caché avec l'étiquette.
Ah, d'accord, mais c'est pas grave, on le recherchera.
Je crois que c'est Gauthier là.
Alors que moi je l'avais tout à l'heure et tu me l'as pas demandé.
Ouais. Bon, c'est
pas
grave. Je crois non, c'est vrai, c'était qui toi d'ailleurs?
Le rayon de l'imaginaire.
Ok. Avec vous, je découvre tous les jours des maisons d'édition. C'est formidable, d'accord. Cette émission. Non, non, mais c'est pas grave, Marlène, c'était comme ça pour
moi,
savoir.
Moi, les dessins, ça me fait penser à Axel Schaeffer.
Je pense que c'est Gauthier Langlois.
C'est qui fait les dessins?
Mais lui.
Mais lui aussi, il fait
mais
tout.
Mais oui.
Non, les dessins, non.
Mais non.
Non, non. Non,
non. Et la musique, c'est lui aussi, peut-être?
Mais oui.
La musique, oui. Il a dit que oui. Et il en avait fait.
Comment ça s'appelle, ton Bitonio?
Bitonio. Ça s'appelle bon. La symphonie des animaux.
Allez.
Il s'est illustré par Suzanne Bathory, et donc c'est ça, c'est Gauthier Langros, c'est bien ça.
Ok. Merci beaucoup. Concentre-toi, Valérie, ne va pas chercher autre chose. Parce
je
que
cherche la
de...
symphonie des animaux. C'est... Ouais, je te le garde, c'est... je vais le QR coder.
C'est à toi de présenter un livre.
Excusez-moi, j'étais en train de QR coder Dan Brown avec son Labrador.
Mais tu vas nous QR coder le destin des sorcières plutôt.
Bon, je peux. Enfin, leur destin, malheureusement, a été QR codé pour elle il y a déjà fort longtemps.
Eh oui.
Alors, le destin des sorcières, c'est Dixit, ma petite personne. Ça a été l'explication illustrée de Sorcière de Mona Chollet, puisqu'initialement je m'étais dit tiens, mais sorcière, on va parler de Mona Chollet. Voilà. En fait, elle parle de. Donc, c'est Solène Cornec et Aline Bureau. Donc, c'est un documentaire avec des très, très, très belles illustrations qui raconte le destin de 15 sorcières. On se dit ben tiens, ça va être, on va aller toutes les connaître, elles sont toutes très certainement connues. Eh bien, moi, j'en connaissais, je crois, deux sorcières. Sur les 15, qui était Jeanne d'Arc et je ne sais même plus laquelle, je crois que c'était Betty Paris. Et voilà, donc c'était tout sur toute la liste. Alice Kittler, Jeanne de Brigue, Véronica de Denis. Je ne sais pas, ça vous parle tous ces mots?
Pas du tout.
Voilà. Et pourtant, c'était des sorcières connues qui ont toutes vécu la même fin, le même sort tragique. Et ce livre, donc il y a 15 petites biographies qui expliquent comment elles sont... comment elles ont été accusées de sorcellerie et comment elles sont mortes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, ils expliquent, ils mettent le « et maintenant ». Pendant tout le temps, ils expliquent que chacune de ces sorcières a été considérée sorcière parce qu'elle était déjà bon, femme, évidemment, mais qu'elle elle avait une bonne maîtrise des herbes, qu'elle travaillait beaucoup aussi, qu'elle travaillait beaucoup sur des potions, enfin elles étaient un peu guérisseuses, mais elles n'avaient pas le droit d'avoir ce statut-là. Donc elles étaient sorcières parce qu'elles avaient une libre pensée de croyance, une libre pensée de faire, et ben donc sorcières. Voilà, c'était des sages-femmes, c'était des femmes des fois qui étaient veuves et qui du coup très vite ont été accusées d'avoir tué leur mari. Voilà, et donc elles n'allaient pas avec les mœurs de l'époque, qui étaient souvent du christianisme très... très, très
puritain
et poussé à leur paroxysme. Et voilà, et donc jusqu'à la dernière au XVIIIe siècle, sorcière qui a été brûlée ou jetée d'une falaise, je ne sais plus trop, et donc qui n'a pas rebondi et n'a pas réussi à s'extraire des limbes du feu. Voilà, on explique pourquoi est-ce qu'elles étaient considérées sorcières, et ça fait vraiment écho à Mona Chollet, mais pour adolescents. En fait, pour qui souhaiterait en découvrir plus. Alors, au départ, moi, je l'ai mis au rayon jeunesse.
Il y a combien de sorcières présentées? 15.
Là, ils en présentent 15, et à part Jeanne d'Arc...
4 pages par sorcière, c'est quoi
à peu près, ouais, tu dois avoir, oui, 3 pages.
Pas du tout.
D'accord.
Mais j'ai envie de le lire.
Mais il vient de sortir, il est sorti, je crois, soit si c'était fin 2024, soit début 2025. Hein, donc, c'est pas vieux. C'est chez Milan. Et voilà, c'est plein de petits récits qui donnent envie d'en savoir plus, mais qui sont joliment illustrés.
Oui, c'est joli, les dessins, c'est
assez
doux.
Les dessins sont très, très jolis. Même Jeanne d'Arc, sa coupe, elle est sympa.
Jeanne d'Arc. À part dans le film de Besson.
C'est Mireille, non, c'est Mireille Mathieu.
C'est Mireille Mathieu, ouais, qui a servi de modèle. Voilà. Mais voilà, ils expliquent un peu qui était Jeanne d'Arc. Ils réexpliquent un petit peu, par exemple, pour elle, le fait historique, à quelle époque c'était, qu'est-ce qui se passait en France à ce moment-là, et pourquoi est-ce qu'elle était à la fois héroïne, mais comment elle a été accusée aussi de sorcière, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter la prison, la succession de personnes qui l'ont jugée parce que est-ce qu'elle est une sorcière, est-ce qu'elle est une héroïne, est-ce qu'elle est un chevalier, est-ce qu'elle est voilà, de la qualifier. Et puis au final, ben, ça va aussi vite si on la brûle, puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mmh. Voilà, et c'est un peu ça pour toutes les 15 sorcières qu'on va voir. Et souvent, ben, c'était juste des punks, quoi. Et c'est-à-dire, oui, elles se différenciaient juste des autres. Ouais. Voilà, c'est ça.
Ouais, absolument.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce merveilleux ouvrage qui représente les 15 vies meurtries, les 15 esprits libres et les 15 femmes qui étaient des destins de sorcières.
Ok. J'irai voir l'évêque pour lui dire que... L'évêque pour lui, oui, dire que Jeanne d'Arc était punk.
Je pense qu'il serait d'accord, hein, avec... Je pense qu'il serait d'accord aussi, avec toi.
Ouais, je suis pas sûr.
Tu demanderas.
Allez, merci Valérie, Elodie, Wicked, Grégory, Maguire.
Ah, mais je suis heureuse. Ouais, Maguire. Mais alors, du coup, je suis contente parce que tu le prononces comme moi, Wicked.
Je dirais Wicked.
Voilà, Marlène, vas-y, je t'écoute.
Wicked.
Wicked.
Mais alors, non, Wicked. Wicked qui veut dire, Marlène, mauvais.
Voilà, alors, du coup, de ces trois ouvrages.
Mauvais de rien du tout.
Des trois
comme
livres.
Comme le reste déjà à la base. Mais.
C'est à moi ?
Oui, c'est à toi.
Ok,
vas-y.
Non, je sais pas, je vous laisse. Hein.
Allez, je te dis. Alors, il est né à Albany, dans l'État de New York. C'est un auteur américain.
Ouais, super. du coup, non, parce que je vous avoue qu'en fait, ce livre des trois que je vous présente ce soir, c'est celui qui m'a laissé vraiment le plus circonspecte. Alors, ça raconte l'histoire d'Elphaba, la méchante sorcière de l'Ouest.
La verte.
Voilà, de sa naissance jusqu'à sa mort, avec l'ambition aussi de parler un peu dans ce bouquin de préjugés, d'acceptation de soi, des différences de l'autre. Voilà, donc parce qu'Elphaba donc, est née de couleur verte avec des dents acérées. Pour rappel... Donc, parce qu'on remonte à la jeunesse de cet ouvrage, donc de 500 pages avec une très jolie couverture. Hein. Moi, il m'a donné vraiment envie de le lire. Hein. Il est super chouette. Donc, un livre qui revisite l'univers du magicien d'Oz. Donc, pour rappel, Le magicien d'Oz, un conte pour enfants, écrit en 1900 par Lyman Frank Brown, avec la petite Dorothée, vous vous en rappelez, son petit chien Toto. Ils sont enlevés avec leur maison du Kansas par une tornade, emportés dans le merveilleux pays d'Oz. On y retrouve les petits souliers d'argent, le puissant magicien d'Oz qui réside dans la cité d'Émeraude, la route de briques jaunes, l'épouvantail sans cervelle, le bûcheron en fer blanc et le lion peureux. En 1939, on a Victor Fleming qui s'en inspire pour faire un film, hein, avec Judy Garland et Margaret Hamilton dans le rôle de la méchante sorcière, celle qu'on va retrouver là. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit les grandes robes noires, hein, dont sont désormais affublées toutes les sorcières. Et donc nous voilà en 1995 avec Gregory Maguire, le New-Yorkais, là, qui nous sort ce roman pour adultes, je précise, pour adultes. Un livre donc qui va devenir un best-seller et qui va inspirer l'une des comédies musicales les plus lucratives de Broadway en 2003, comédie musicale, là il faut suivre, qui a elle-même donné lieu à un film en deux parties, dont on nous a rebattu les oreilles avec une promo XXL en décembre 2024. Hein, vous vous rappelez ce petit budget de 150 millions de dollars pour nous vendre ce film. La seconde partie prévue en 2025.
Je suis passé à travers.
Ah bon, ouais. Avec Cynthia Erivo, toujours dans le rôle d'Elphaba.
Je vais te montrer la couverture du film et, sur le livre.
Voilà. D'accord. Et Ariana Grande,
hein, je connais ça.
Dans le rôle de Glinda ou Galinda, ceux qui l'ont connue plus jeune, la future bonne sorcière. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, voilà, contrairement à ce que je fais d'habitude, je vais avoir du mal à vous dire ce que j'ai bien aimé dans le livre. Parce qu'alors, du coup, moi, j'ai pas compris. Je crois que je suis passée complètement à côté de ce bouquin.
C'est... Ça arrive.
Ah ben non, mais c'est lent.
Ah bon, mince.
C'est dense. C'est super sombre. C'est très ennuyant, sous particulièrement les 100 premières pages, voire les 500 premières pages, hein, je pense. Voilà, je m'y suis surprise à plusieurs fois pour le lire. Franchement, je me suis fait violence pour le terminer.
Comme tu le décris, c'est bizarre d'en faire une comédie musicale.
Oui, mais alors c'est ça qui est dingue. Alors, la comédie musicale est vraiment très édulcorée.
Mais c'est
bourré
de dialogue, là, en plus.
Oui, alors, du coup, on s'attend à voir des maisons qui se soulèvent, un peu de féerie, quoi. Bah, en fait, à la place, on a des conflits politiques, on a du terrorisme, on a du sexe, on a un infanticide, on a de l'infidélité. Bon, soit, hein, pourquoi pas, mais c'est pas du tout ce à quoi on s'attend quand on veut lire ce livre. Même l'héroïne, alors là, psychologie complètement obscure, hein, Elphaba, on comprend pas trop. Alors elle va rejoindre un groupe terroriste, elle va défendre un peu les animaux, tout ça pour s'opposer au magicien d'Oz. On ne comprend pas trop. Alors, elle est censée être.
Déjà, on comprend pas quand tu
dis. Non, mais elle est censée être une figure de résistance un peu contre la tyrannie, mais elle est tellement inconstante qu'en fait, on comprend pas où veut en venir l'auteur, on n'arrive pas à la cerner.
Moi, je suis restée vraiment complètement hermétique.
Est-ce que tu as réussi à le finir?
Alors, je l'ai fini juste pour cette chronique. Hein. Franchement, sinon, j'allais...
Faut pas se forcer.
Elle a laissé sédimenter sur ma table de chevet, je pense.
Il n'y a pas une suite, d'ailleurs
Non, du film, oui. Mais là, c'est bien qu'il s'arrête là. Tout, là. En fait, c'est bien qu'il se soit arrêté là. Surtout que même la mort d'Elphaba, donc à la fin, c'est là, enfin, on voit arriver... Ah oui, je vous la raconte. Là, c'est bon, on s'en fout. Donc là, sachez que
Elphaba... Tu sais qu'il y a la moitié des gens qui nous écoutent, qui ont vu le film, qui se disent « vivement la deuxième partie ».
Ils ont vu la comédie musicale où déjà elle meurt. Hein, de toute façon,
mais non.
Bon.
Forcément, personne n'a été à New York.
Je vous raconte pas la fin, donc.
Non, mais tu l'as déjà dit, elle meurt.
Oui, mais alors elle
meurt. Qui, Rafiki ?
On ne comprend pas non plus. Attends, laisse-moi te raconter.
Elle peut revivre aussi, c'est une sorcière.
Voilà, on ne sait pas déjà si elle meurt vraiment ou si c'est un truc un peu symbolique. Toujours est-il qu'on ne savait pas qu'elle craignait l'eau, mais la pauvre Dorothy, qui apparaît seulement dans les trois dernières pages, lui jette un seau d'eau pour éteindre cette torche qui avait enflammé sa jupe, et paf, elle est morte. Bon, bref, on ne comprend pas trop. Voilà. Bon, ça peut décevoir certains fans.
Non, mais c'est bien.
Moi, j'étais pas fan, ça m'a déçu aussi, du coup, je sais pas.
Ben ouais. Est-ce que quelqu'un a vu le film ?
Moi, j'ai vu le film, du coup.
Ah,
j'ai regardé
oui.
le film.
Et alors ?
Et j'ai préféré le film au livre. Pour ouais. C'est rare. C'est rare.
Et t'as envie de voir la suite ?
Pas du tout, non plus.
Et donc, Rafiki, c'est qui ?
Je sais pas qui est Rafiki.
Il y a des milliards. Alors, en train de lire le livre en même temps.
Alors, il faut savoir. Non, mais attention. Non, attention.
Je suis en train de lire le même truc que toi.
Il y a à peu près 4000 personnages. Je ne sais pas combien il y en a. On ne sait pas s'ils sont importants ou pas importants. Ils apparaissent pendant le premier tiers du livre. Par exemple, le père d'Elphaba, il est là tout le premier tiers du livre. Puis d'un coup, il disparaît. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On parle plus du tout. Enfin, il y a des. C'est un peu le même nombre de personnages que dans Le Seigneur des Anneaux.
Ok.
Sauf que dans Le Seigneur des Anneaux, c'est bien.
Ouais. Voilà.
Sais pas quoi.
Tu vois, moi, j'arrête pas d'ouvrir le livre. Je vois le Rafiki reconnu par la suite avoir cru que l'un des invités
c'est
de la princesse serait sacrifié.
C'est un joueur turc de Galatasaray, Rafiki.
C'est vrai.
Ouais. Alors soyez sympa pour ceux qui ont écouté la chronique. Valérie a commandé un livre qui est en vente ici, qu'elle n'arrivera plus à vendre depuis.
Je remercie. Désolée.
Je suis ravie de l'avoir pris en poche à 9,95€.
Si vous n'aimez pas quelqu'un,
une reprise, c'est peut-être.
Offrez-le si vous n'aimez pas.
Le pire, c'est que je l'ai vraiment recommandé il y a pas longtemps en me disant. Le film est sorti au cinéma, il va bientôt passer sur les...
On a perdu un client, il ne reviendra plus.
Mais on ne sait jamais, parce que celui qui n'a pas confiance dans les
Écoute,
lectures...
Écoute, je suis contente...
Elle est particulièrement moche, la couverture.
Non, mais pour de vrai, Valérie, je serais très curieuse de rencontrer les lecteurs qui vont aimer ce livre. Vraiment.
Aimé ou lu ?
On lance un appel.
Non, aimé, parce que lu, il y en aura.
Alors, ceux qui ont acheté et lu, parce qu'acheter, c'est une chose, mais lire en est une autre.
Voilà, discutons ensemble, vraiment, j'ai hâte.
Est-ce que vous êtes d'accord que je donne vos coordonnées à Élodie ?
Vous venez à la librairie, vous nous le dites et on donnera les coordonnées.
Et RGPD oblige, je ne peux pas.
Non, mais quand j'ai vu je me suis dit, ça doit être bien ça, mais écoute, c'est bien.
Je te le laisse et puis on s'en parle.
Non, c'est trop long pour moi.
Là, tu l'as mal vendu déjà, donc ça donne pas envie.
Non, je pense que là, j'ai arrêté de faire. Non, mais faut arrêter les faux espoirs.
Peut-être faudrait que tu le relises, tu vois, quand ton esprit est plus open mind, tu vois.
Ouais.
Non, je déconne.
Le tien est très ouvert, vas-y, je te souhaite.
Je préfère un livre de poche. Ouais.
Ok, merci Elodie. Alors, entre-temps, Marlène m'a donné la wildcard, je te remercie.
Alors, elle l'a déjà donné son livre.
Non, elle m'a donné pour la prochaine émission, elle m'a donné la carte.
Non, il se l'a octroyé, c'est volé, c'est despotique.
Pour une fois que je vais lire un livre, je vais en présenter, passer la musique, je vais devoir en présenter un deuxième sur un autre thème. Quoi. Ah, je te jure, vraiment, vous ne m'aimez pas. Avant de finir avec Valérie, est-ce que tu veux parler du second livre, Thomas, ou pas du tout ?
Bah, allons-y.
Dire un petit mot.
Un peu de l'impro.
Ah oui.
Ouais.
Mais c'est le Dictionnaire des sorcières de Grégoire Solotareff.
Qui est trop bien.
Qui est trop bien.
Solotareff, petite référence quand même en jeunesse, c'est un auteur incontournable.
C'est ça.
Peut-être.
Je parlais de l'auteur.
Je te promets, c'est obligé.
Donc
moi, je parlais de l'auteur, pas du livre.
Grégoire Solotareff.
Absolument. On recommande.
À vous qui connaissez, vous pouvez me faire la biographie.
De Solotareff, non,
oui,
pas du tout.
Non.
C'est un auteur jeunesse qui écrit donc pour les enfants.
De quel âge à peu près ?
Bah écoute, je dirais jusqu'à 12 ans. Après, ils font les blasés, mais ils adorent quand même, ils le lisent en cachette.
On a peut-être jusqu'à un peu avant quand même 12 ans, parce que voilà, c'est très beau, c'est des beaux dessins. Et donc, Dictionnaire des sorcières, c'est assez simple. C'est chaque page, vous avez un mot dans le champ lexical de la sorcellerie, on va dire. Et un petit paragraphe qui va expliquer ce mot. Alors, chatouille, là j'ai devant moi, je suis en train de tourner les pages, ragoûtante, douée, et à chaque fois une petite explication. Ça a l'air assez. Je le découvre.
Oh le vilain!
Mais c'est bien, c'est
sachant concept. Que Solotareff, c'est aussi l'illustrateur, puisqu'il fait auteur-illustrateur. Donc
je
c'est
savais
pour ça
aussi.
Qui avait fait les loulous.
Tout à fait, j'allais le dire.
Voilà.
N'est-ce pas ? En fait, il a fait comme le dictionnaire amoureux qui sort chez Plon sur plein de sujets, dictionnaire amoureux du café, dictionnaire amoureux du Japon. Non, et là, je meuble le temps que tu lises. Et en fait, c'est le même principe, sauf que là, il va prendre des définitions de A à Z que sur des mots en lien avec les sorcières. Ouais.
Et normalement, son personnage de sorcière, on le retrouve dans d'autres œuvres.
Dans Loulou ? Mmh.
Oui. Puisqu'en fait, il a toute une œuvre. Pardon.
Oui, vas-y, excuse. Pardon.
Il a toute une œuvre où en fait tous ces personnages se retrouvent. Et il y a un fil conducteur dans tous les livres qui sont sortis en fait. Il y a toujours des personnages redondants et voilà qui passent d'une histoire à une autre.
Mais ça, c'est pour les petits. Après, il y a du second degré un peu pour. Oui, non, oui. Parce que je l'ai lu aussi. Hein, c'est pour ça.
Oui, ça. Alors, je regarde. Il y a des mots qui manquent, qui sont pas forcément en lien tout de suite avec les sorcières, mais il arrive à raccrocher les wagons, on va dire. Pas comme moi.
Pourtant, ouais. T'as laissé du temps, là.
Donne-nous un exemple de raccrochage de wagons.
Cacadoya, par exemple.
Cacadoya, c'était chouette.
Alors, je l'ai vu.
Ouais. Ah, c'est.
Après, il y a des mots aussi que je découvre, donc c'est intéressant. Par exemple, non, pas oulala, ça je... Alors, oulala, c'est lorsqu'il y eut du vent que l'on voit qu'une fée est bien différente d'une sorcière. Sous les manteaux couverts des pierres précieuses, les robes ou les jupons des fées sont toujours propres et de couleur claire, alors que celles des sorcières...
Oulala.
Ah, tu le fais bien.
Ouais, j'ai une sorcière.
Non, mais à lire avec ses enfants, c'est sympa, ouais, comme il y a deux degrés de lecture, voilà. Merci Thomas, c'est super.
Mes enfants.
Ouais, exactement. Dès ce soir. Valérie, alors qu'on dit, on termine avec toi, il faut pas sortir 10 livres.
Ah bah oui, mais là, parce qu'on parle des sorcières pour adultes, mais quand même, c'est au rayon jeunesse, moi, que j'ai trouvé le plus de références sur les sorcières. On a tous lu La sorcière de la rue Mouffetard.
Ah oui.
Je suis sûre qu'on
sait. Bah
ben oui, tous les Roald
Dahl.
Du placard
au balai. Incroyable.
Les sacrées sorcières. Sorcières, sorcières. Prends
les trois
garde.
Sorcières aussi.
Voilà, tout ça. Et moi, j'aime bien.
Trois frères, le film.
Il y a Sandrea.
On
n'a même pas parlé d'Harry Potter.
Enfin, si, il a dit nous a traité de Moldus.
Tu nous as traité de Moldus.
Ah oui, non, je dis bonjour les Moldus. Il y a Sandrea Hazel qui est une petite série que vous pouvez trouver à la médiathèque départementale de Lozère aussi.
À la librairie aussi.
Aussi, mais bon, je ne vais pas me faire de l'autopub non plus. Qui est qui sont une sorcière avec son petit animal de compagnie, qui est une petite chèvre, je crois, et qui s'éclate. Il y a Zouk, la sorcière, qui fait plein de petites bêtises, c'est un peu l'équivalent de...
Ah oui, on lisait beaucoup avant.
Mais oui,
enfants,
c'est trop bien.
Aussi,
et
excellent.
Cornebidouille, par exemple.
Ah, je l'adore.
Vous n'en pouvez plus. Et là, le coup de cœur absolu, c'est Brume. Brume, c'est une BD, donc le troisième tome vient de sortir. Je vois des mères de famille qui hochent la tête de haut en bas. Le dessin est magnifique, l'histoire est magnifique. C'est Jérôme Pélissier et Karine Hinder. Là, j'ai le tome 1, Le réveil du dragon. Donc, c'est une petite sorcière qui vit avec son papa et qui est intelligente, qui est douce. Et c'est une super, super BD, donc pour enfants, mais que les adultes doivent lire.
Eh bien, merci Valérie, on va rester sur ça.
Absolument.
Pour cette émission. Et donc, on vous rappelle, la prochaine fois, on va parler de musique. Voilà, littérature et musique.
Je crois qu'on avait dit
comment imposer un thème.
Mais on change au fur et à mesure qu'on décide de la thématique.
T'as bien choisi.
Il n'y avait pas une Astérix sous réserve de...
De l'adhésion de tous les membres.
Oui, c'est pas très démocratique tout ça. Entre la wildcard et le thème de l'émission.
Ouais, écoute,
il fallait pas me laisser tous les pouvoirs.
C'est comme ça. C'est comme ça. Allez.
On s'habitue, on se croit aux States, quoi.
Voilà. Et il y a Pauline qui va pas tarder à revenir aussi, à mon avis.
Ça
là.
Va pas du tout lui plaire.
Ça... Mais non, ça parle pas de guerre.
Il n'y a pas de génocide dans la musique.
Mais si, tu sais, le pianiste, par exemple.
Oui, le pianiste,
voilà.
Oui, pianiste, c'est ça. Il doit bien y avoir le violoniste d'Auschwitz qui existe.
C'est ça, exactement. Ouais. Allez, merci à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Et comme dirait l'autre,
au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.